Et ce soir, une éclipse totale du soleil va se produire. Explication avec votre invitée Isabelle.
Vers 20h40, une éclipse solaire totale sera visible de l'Amérique du Nord. Les plus organisés pourront la suivre en direct de la Cité de l'Espace à Toulouse. Les autres pourront quand même l'admirer en se connectant au site de la NASA. Et n'essayez pas surtout de regarder le soleil avec vos yeux ou sinon avec des lunettes spécifiques. Et pour nous parler de tout ça, je reçois Sylvestre Maurice. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien à l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Que se passe-t-il exactement lors d'une éclipse totale du soleil ?
Ah, c'est un bel événement. Il faut en profiter si on peut être sous la totalité. Alors, ce qui se passe, c'est simplement une combinaison du mouvement de la Terre et de la Lune autour du Soleil. Alors, on sait que la Lune tourne autour de la Terre en 28 jours. Et donc, elle devrait s'interposer devant le Soleil tous les 28 jours. En fait, ce n'est pas exactement ça parce qu'elle est inclinée. Son plan est un petit peu incliné de 5 degrés. Et ça, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que l'alignement se produit assez rarement. On estime qu'il y a environ 2 éclipses par an qui peuvent être partielles ou totales. Celle qu'on voit aujourd'hui, c'est la 15e éclipse totale du 21e siècle. Donc, ce n'est pas extraordinairement rare. Mais à chaque fois, ça tombe en un endroit. Imaginez-vous, vous êtes sur la Lune. Vous êtes un astronaute pour une fois et vous regardez vers la Terre. Et là, vous allez voir une tache noire qui se déplace à toute vitesse. C'est finalement l'ombre de la Lune sur la Terre. C'est ça une éclipse. Une tache qui va très très vite, à plus de 1000 km/h, et qui va survoler en l'espèce. Aujourd'hui, ça commence Mexique. Mexique, plutôt à l'ouest du Mexique, nord-ouest, ça va traverser tous les États-Unis et ça va finir du côté du Canada, du côté d'ailleurs pas très loin de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est-à-dire à l'est du Canada.
Voilà. Et il va y avoir donc une nuit totale.
Voilà, sous la totalité. Alors, il y a aussi sur les bords, on est partiel sous la totalité, c'est la nuit. Alors, la nuit qui ne dure que cette fois-ci, c'est 4 minutes. C'est finalement assez peu. On a des éclipses plus longues, on a des beaucoup plus courtes. Donc, pendant 4 minutes, il fait nuit. Vraiment nuit.
Il fait vraiment nuit. Alors, il y a peut-être un mythe qui dit que les hommes ou les animaux peuvent réagir à une telle éclipse. Alors, vous, ça vous fait sourire.
Faut penser que les éclipses, nous, c'est dans notre cabinet des curiosités. Et ça fait partie de notre histoire. Il y a des astronomes qui ont parcouru le monde pour voir les éclipses, qui se passe quand même des choses assez intéressantes. On a fait un petit peu de science à une époque. Alors, c'est la science du soleil. Alors, il se trouve que la Lune venant cacher le soleil, on ne voit pas tous ces rayons qui nous éclairent. Et on voit ce qu'on appelle la couronne. Alors la couronne, maintenant on le fait avec des satellites, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais c'est un endroit du soleil où le soleil finalement se réchauffe avec l'extérieur. Le soleil est à peu près à 6000 degrés, c'est pour ça qu'il est jaune. Et puis il va se réchauffer à 1 million de degrés dans cette couronne. Et puis cette couronne s'étend jusqu'à nous d'ailleurs. Notre planète est baignée dans la couronne du soleil qu'on appelle le vent solaire. Donc on fait un petit peu de science du soleil, pas trop de science de la Lune. À une époque on a cru, mais finalement la Lune non, là c'est vraiment un masque qui vient de soleil, un petit peu de science de la Terre. Alors, sur la Terre, on peut regarder comment l'atmosphère va bouger. Et pour ça, on envoie des avions. D'ailleurs, il y a un avion là qui va partir, essayer de suivre cette ombre qui ira plus vite que l'avion. Donc, ça va durer un petit peu plus longtemps à bord de l'avion, mais pas si longtemps, je crois, 6 minutes. Mais on fait de la science, un petit peu de l'atmosphère haute. Et puis, on s'est posé des questions. Est-ce que l'influence, évidemment, sur le vivant? Mais c'est tellement court, quelque chose.
Oui, 4 minutes.
Oui. Alors, il y a toujours ces... Est-ce que c'est un mythe? Est-ce qu'il y a un peu de science sur ces animaux? Comment réagissent-ils? Ce qui est assez intéressant, c'est de demander l'avis de tout un chacun et puis essayer de rassembler un peu les informations d'une petite science participative sur la réaction de tel animal dans la basse-cour. Bon, moi, je trouve ça très sympa parce que finalement, c'est assez rare. Les éclipses, c'est de l'astronomie pour tout le monde. Finalement, la Lune, elle est là tout le temps. On ne s'en souvient ou on ne la repère souvent que lorsqu'elle est pleine, mais elle est bien là. Eh bien, évidemment, là, c'est forcément la nouvelle Lune pour avoir une éclipse. Et donc, on en profite. Voilà, les deux grands astres de notre Soleil, de notre système se rencontrent, le Soleil et la Lune.
Ils sont parfaitement alignés, en tout cas cette fois-ci. Alors, au cours de cette soirée à la Cité de l'Espace ce soir, vous allez dialoguer avec l'astrobiologiste Nathalie Cabrol sur les recherches dédiées à la recherche de la vie extraterrestre. Quelle nouveauté allez-vous partager? Parce que ça, c'est très mystérieux pour nous, la vie extraterrestre.
Ça, c'est un des grands sujets. Et si on doit faire la liste des grands sujets qui nous animent, évidemment, y a-t-il de la vie ailleurs est probablement une des plus grandes questions. Et on l'aborde en astrophysique, bien sûr, soit en recherche de vie, même intelligente. On se dit, est-ce que quelqu'un nous parle? Alors, on écoute. soit surtout en recherche de traces de vie. Est-ce qu'il y a de la vie quelque part? Alors, dans notre système solaire, on a des lieux assez intéressants qu'on appelle de potentiels exobiologiques. Alors, absolument pas la Lune. Et voilà, quand même,
bon,
on parle de la Lune aujourd'hui.
Clair.
Ça, c'est fait. Absolument pas. Mais probablement, Mars, dans le passé, il y a peut-être 3 milliards d'années, Mars avait tout ce qu'il fallait pour que la vie se développe. Donc, la vie s'est-elle développée? Y a-t-il des traces? Mais ça peut être aussi, par exemple, les satellites de Jupiter, l'un qui s'appelle Europa, parce que sous la glace, il y a de l'eau liquide, il y a un océan qui est assez important. Ça pourrait être dans l'atmosphère de Vénus, pourquoi pas? À la surface, il fait très chaud, mais en certains endroits de l'atmosphère. Donc, on a plusieurs endroits comme ça, des satellites de Saturne, par exemple. Voilà. Donc, on va faire un peu le point ce soir avec Nathalie Cabrol en se disant, ben, on en est où?
Oui.
Alors, la réponse, c'est on ne sait pas.
Mais
c'est beau dans la recherche. Bien sûr, on préviendra tout le monde le jour où on trouvera une vie ailleurs. Mais le message est aussi que pour l'instant, la vie, elle est bien sur Terre parce que c'est une planète qui ressemble à aucune autre.
Eh oui, elle est unique, la planète Terre. Sylvestre Maurice, vous êtes un spécialiste de l'exploration de Mars. Vous étiez venu l'année dernière dans les studios de Radio Présence et vous nous aviez fait entendre des sons provenant de cette planète. Quelles ont été vos conclusions et la suite de vos recherches à propos de ces sons?
Ah, l'acoustique. L'acoustique extraterrestre, alors c'est assez rare. Effectivement, on l'a développé ici à Toulouse avec l'école Super-Héros et puis notre laboratoire avec un micro pour écouter. Alors, on ne savait pas bien. On partait un peu dans l'inconnu. On a fait travailler des étudiants, des jeunes chercheurs. Et évidemment, comme à chaque fois, on est surpris du résultat et le résultat n'est pas là où on l'attendait.
Ah.
Voilà, ça, c'est la recherche. Hein. Je pense toujours qu'on est très malin à prédire ce qu'on va trouver. Puis quand on arrive, c'est un peu autre chose. En l'espèce, on a compris comment le son se propageait sur une autre planète. Ça, c'est intéressant. C'est de la bonne physique. La physique assez difficile, ce qu'on appelle la thermodynamique. C'est compliqué. Ensuite, on a vu qu'on pouvait mesurer des phénomènes de turbulence. Voilà. L'acoustique permet de mesurer un peu comme sur Terre, vous entendez le vent dans un micro, ou bien ici, à la radio, vous mettez des petites bonnettes pour empêcher justement le souffle. Nous, on n'a pas mis la bonnette, donc on entend le souffle du vent. Et le souffle du vent nous renseigne sur le vent lui-même, d'abord, et sur les échanges de chaleur qui se produisent entre la surface et l'atmosphère qui vont générer de la turbulence. Donc, on a un indicateur de turbulence qui est très important pour nous pour comprendre comment fonctionne cette atmosphère de Mars. Donc, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est au-delà de la valeur un peu émotionnelle d'entendre les premiers vents sur une autre planète. Ça, c'était on l'avait partagé, c'était incroyable. C'est vraiment cette science qu'on apprend et qui n'est pas du tout celle qu'on pensait, mais on en profite. Et ça marche très, très bien. Le microphone, ça fait 3 ans qu'on est sur Mars, fonctionne toujours, donne de très beaux résultats ainsi que tous les autres instruments. C'est une belle mission, persévérance.
Et vous avez toujours les mêmes sons qui vous proviennent ou est-ce qu'il y a eu une évolution sur ces 3 dernières
années? Non, ça évolue. Déjà, on les prend à différentes heures. On les prend la nuit, on les prend le jour, le matin, l'après-midi. On regarde à quel moment la turbulence se développe. Elle se développe dans la matinée quand il commence à faire chaud. C'est une planète étonnante, Mars, parce que comme il y a peu d'atmosphère, il y a un gradient, c'est une différence de température entre le jour et la nuit de pratiquement 80 degrés. Donc,
oui.
Il fait 80 degrés plus froid la nuit. Oui, le concept de la nuit, les nuits sont froides veut dire quelque chose sur Mars. Et ce gradient va générer de la turbulence justement dans l'atmosphère.
Ah, c'est ça. Il y a aussi une supercam, une caméra qui est arrimée au robot Persévérance. Vous avez pu aussi enregistrer, j'imagine, des images. Quelles sont ces images?
Alors, oui, l'instrument s'appelle Supercam. En effet, c'est l'instrument franco-américain qu'on a développé avec le CNES. Pendant des années, qui fonctionne très très bien. Alors, le microphone est un des senseurs. Il y en a 4 autres, 3 qui sont des lasers avec des spectromètres qui font des mesures de chimie. Et puis, un imageur, effectivement, vous avez raison, une petite caméra qu'on a mis là, mais alors, qu'on appelle microscopique, c'est-à-dire c'est comme si c'était un microscope à distance. Alors, on regarde les cailloux de Mars,
oui.
C'est notre spécialité. Alors, on ne les découvre pas, parce qu'on les avait déjà vus avec une autre mission du passé qui s'appelle Curiosity.
Ah bah oui.
Et qui est là-bas depuis pratiquement 12 ans. Et ça fait 12 ans qu'elle fonctionne, elle aussi, elle fait des images. Donc, ensemble, on voit à petite échelle les roches de Mars. Alors, les roches qui sont façonnées par le vent, encore une fois, par l'eau. Mais alors, il n'y a plus d'eau. Maintenant, c'était l'eau du passé. Il y a de l'eau à couler, il y a longtemps, à générer des petits nodules, des concrétions, des veines. Enfin, on a toute une petite zoologie de nos roches. On fait de la pétrologie pour décrire ces roches dans leur ensemble et nous révèle justement que dans le passé, il y a 3,7, 3,8 milliards d'années, au moins, il y a très, très bien longtemps, eh bien, il y avait de l'eau liquide sur Mars sous forme de lacs, sous forme de rivières. Et cette eau est restée assez longtemps. Elle a fini par disparaître. Et dans cette eau, dont on peut décrire qu'elle n'était pas salée, par exemple, pas très salée, elle n'était pas acide, elle n'était pas basique. J'ose dire qu'elle était pratiquement de l'eau douce. Est-ce qu'on pourrait la boire? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est douce. Eh bien, dans cette eau, il y avait un peu de chimie, de la chimie intéressante, la chimie organique, c'est la chimie du carbone, qui s'est développée. Et tout ça nous permet de dire qu'à l'époque, Mars était une planète habitable. Elle avait toutes les conditions physico-chimiques pour que la vie se développe. Maintenant, à savoir si la vie s'est développée,
oui, c'est ça.
Le paramètre temps, c'est probablement ce qui manque. C'est le temps, mais c'est ce dont on va discuter ce soir avec Nathalie Cabrol en particulier. C'est ça, la recherche en astrobiologie, essayer de comprendre comment se développe la vie ailleurs et si elle s'est développée, tout en se faisant référence à la Terre. Et c'est ça qui est important. À chaque fois que je vais quelque part dans le système solaire, c'est un peu la Terre que je regarde, parce que la Terre est une planète absolument extraordinaire, mais qui a oublié son passé, parce qu'il y a beaucoup de tectonique, d'érosion du vent, d'érosion de l'eau. Finalement, on a aucune trace de cette époque merveilleuse qui vit naître la vie sur Terre. On va peut-être chercher un petit peu de cette histoire sur Mars.
Ah, voilà, qui est fascinant. Il y a aussi un petit hélicoptère martien qui s'appelle Ingenuity, qui a fait son 72e et dernier vol. La NASA a annoncé qu'il était endommagé, qu'il ne pourrait donc plus décoller. Quelles conséquences d'un tel arrêt sont à prévoir?
Ah oui, alors Ingenuity, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Hein. Ah. Pour être honnête, il n'était pas dans la mission nominale. On n'en avait pas besoin pour faire notre science. Simplement, comme on refaisait un véhicule qui avait déjà été fait, qui s'appelait Curiosity, il devenait Persévérance. Pour les ingénieurs, il faut quand même leur donner un petit élément.
Un petit joujou.
Nouveau. joujou, non, mais oui. Notre passion en fait un jouet, c'est vrai, mais c'est un bel objet. C'était de démontrer que pour la première fois, on peut voler sur une autre planète avec un vol motorisé. Donc un drone, en fait, qui fait 1,2 mètres d'étendue dans ses pales, à peine 2 kilos, et qui donc va voler pour la première fois. Il devait faire 5 vols, comme on est des... Je ne sais pas si on est des bons ingénieurs, mais en tout cas, on prend probablement trop de marge. Au lieu de faire 5 vols, il en fera 72. Comme l'atmosphère est très faible, hein, il y a 7 millibars simplement. C'est pratiquement entre 100 et 200 fois moins que sur Terre. En plus, il y fait très froid. En plus, c'est du gaz carbonique. Ça ne vole pas bien. Il faut faire tourner les pales très, très vite, hein, à 2500 tours par minute, ce qui fait plus vite qu'un hélicoptère, oui. D'ailleurs. Sur Terre, et donc ce drone va voler, va faire une excursion. Il ne fera pas énormément de science, hein, c'est pas ce qu'on lui demande. Il était là, c'est un objet, un démonstrateur technologique, montrer que pour le futur, on peut faire voler des drones sur d'autres planètes. Il va le faire merveilleusement bien. À un moment, il va décoller dans son dernier vol au-dessus finalement d'une dune, et la dune a assez peu de relief, et comme il a une caméra pour se repérer, il va un peu se perdre, et donc il va décider de se poser un peu en catastrophe, tout se passe bien, mais au moment où il se pose, effectivement, une de ses pales touche le haut de la dune, ouais. et vient la sectionner. Donc c'est sûr qu'il ne volera plus. On est encore en contact avec lui pour des affaires technologiques, on lui parle tous les 2-3 jours. Donc, comment vas-tu? Il répond qu'il va bien.
Mais il ne peut plus voler.
Mais il ne peut plus voler, mais c'est une belle, une très très belle expérience technologique qui présage un beau futur pour les vols motorisés sur les planètes. Ouais.
Voilà, en tout cas, de quoi nous donner encore l'eau à la bouche, et puis de quoi avoir d'autres sujets de conversation. Je rappelle donc ce soir la retransmission de l'éclipse solaire à partir de 17h42 et pendant 5 heures, mais vous avez dit, Sylvestre Maurice, qu'elle durerait vraiment 4 heures. On peut la regarder sur le site de la NASA.
Elle dure, la totalité, c'est 4 minutes.
4 minutes, pardon, 4 minutes.
4 minutes, oui. Et la totalité, ça commence à 18h18, ça finit à 21h55, mais ça, évidemment, elle se balade sur les États-Unis.
Sur les États-Unis, voilà. Mais voilà, on peut quand même la regarder sur le site de la NASA. Merci beaucoup, Sylvestre Maurice. Et puis, certainement, à bientôt pour d'autres actualités de nos planètes.